Décryptualité, semaine 15. Salut Manu.
Salut Mag.
Salut Luc.
Eh bien, qu'a-t-on au sommaire ?
On a pas mal d'articles cette semaine. Les journalistes ont pas mal bossé.
On va commencer par Le Monde Informatique. La Fondation Linux lance son pôle de recherche sur l'open source par Jacques Cheminat.
Donc, un pôle de recherche, hein, ça veut dire qu'ils mettent en commun des experts avec différentes personnes qui viennent d'entreprises. Et ils vont essayer de sortir des analyses, des rapports, des études, qui vont essayer de superviser un petit peu tout ce qui se passe un peu dans le monde du logiciel libre, de l'open source de leur côté. On ne sait pas ce qu'il en sortira, on verra avec le temps.
Le Mag IT, la stratégie gagnante d'une migration du poste de travail sous Linux par Christophe Auffray.
Donc, ça parle de migration dans les administrations, ça reparle de Munich, où il y avait eu beaucoup de discussions là-dessus, mais là, c'est un truc un peu plus léger. Alors, ça se passe donc à quel endroit ?
Donc, à la mairie des Chirolles.
Et donc, c'est plutôt sympa, ça met en avant qu'effectivement, il faut des gens motivés localement pour faire avancer les choses, et ce n'est pas facile.
Silicon, Amazon en quête de confiance pour son fork d'Elasticsearch, par Clément Boïc.
Donc, sujet qu'on a déjà abordé, parce qu'effectivement, il y a des logiciels libres qui sont utilisés par les GAFAM, et les GAFAM, ils les utilisent sans forcément libérer tout ce qu'il y a autour. Et donc, ça a embêté les éditeurs originaux, et qui ont changé les licences, donc c'est plus tout à fait des logiciels libres, c'est rageant, hein, ça embête bien la communauté. Et Amazon a forqué la dernière version qui était libre, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qui est légitime. Et là, ils contribuent et ils republient leur version à eux, libre. Donc c'est un petit peu rageant parce que ça fait que les GAFAM utilisent leurs droits et leurs libertés, certes, qu'ils contribuent à du logiciel libre, certes, mais ça reste les GAFAM, donc ça ne nous enchante pas.
Ce qui est tragique, c'est que les anciennes communautés ont changé leur licence pour rien, du coup.
Un petit peu.
Radio-Canada.ca, la NASA adopte des logiciels libres pour son prochain robot lunaire, par la rédaction.
C'est super, hein, le logiciel libre va dans les étoiles. Donc on savait que c'était déjà sur la station spatiale, par exemple. Et de plus en plus, les administrations à la pointe, comme la NASA, font attention à utiliser des logiciels qu'elles peuvent réutiliser, auxquels elles peuvent contribuer, qu'elles peuvent rediffuser. Et il y a des gens qui en profitent. Hein. Si vous voulez vous entraîner, étudier du code intéressant.
C'est généralement ou faire une sonde pour aller sur la Lune. Hein.
Oui, par exemple, chacun a besoin de faire ça. Allez jeter un œil.
Le Monde Informatique, Atos gagne le marché interministériel du support des logiciels libres par Jacques Cheminat.
Alors, le support des logiciels libres pour les administrations, hein, essentiellement, c'est quelque chose d'assez important parce qu'effectivement, il faut aider les fonctionnaires et autres organismes qui gravitent autour de l'État. Donc, c'est pas facile. Et là, il y a une collaboration avec le CNLL qui va permettre d'essayer d'aider les administrés à travailler. Tu te rappelles ce que ça veut dire, CNLL ?
Centre National des Logiciels Libres.
Perdu ! Bon.
Non, c'était quoi, Luc ? Vas-y, rappelle-nous.
La Commission Nationale des Logiciels Libres.
D'accord, donc des gens motivés et qui vont aider Atos, qui eux sont payés pour le faire. Hein, donc ça les motive aussi, j'imagine bien.
ZDNet France, FSF, les administrateurs soutiennent Richard Stallman qui s'excuse des erreurs passées, par Thierry Noisette.
Oui, c'était rageant parce que Stallman a eu pas mal de problèmes dans sa défense d'un collègue. Et là, il est revenu à la FSF et il est soutenu par les membres de la FSF. Oh, comme c'est bizarre. Non, c'est assez normal, hein, effectivement.
Ça avait trollé notamment sur la méthode avec laquelle il était revenu et ce qu'il n'avait pas dit. Donc oui. Il a manifestement entendu les critiques sur son retour et essayé d'arrondir les angles.
Oui, voilà. Alors, s'excuser, ça reste compliqué, mais en tout cas, effectivement, il a parlé un petit peu sur le sujet. De quoi on parle ? Et puis, en fait, c'est le dernier article. Hein.
Next Impact, connaître les machines, une question d'autonomie, pas les humains. La technique, une affaire de culture, par Stéphane Croza.
Et donc, on en fait le sujet de la journée ?
Le sujet de la semaine. On fait qu'un podcast par semaine. C'est un sujet, d'une part, très intéressant, et ensuite, qui fait écho à d'autres événements de l'actualité qui ne sont pas dans la revue de presse, puisque tu fais la revue de presse de la semaine dernière. Déjà, l'auteur, c'est qui ?
C'est un universitaire qui est à Amiens, mais qui est aussi un membre de Framasoft, et voilà. Qui a écrit des livres, un livre à Framabook, et qui, on peut le dire, hein, c'est un mec bien.
Donc, le texte, c'est une tribune qui est publiée sur Next Impact. Et c'est une tribune en faveur du fait que les gens sachent se servir d'informatique, comprennent. C'est une sorte de parallèle avec l'illettrisme, mais dans le domaine de l'informatique, de l'électronique. On parle de quoi ? C'est quoi l'expression consacrée ?
Électronisme.
L'électronisme.
Et les gens qui souffrent d'électronisme sont des ?
On ne sait pas.
Des électrés ?
Électrés, électronisés, bref, on ne sait pas encore.
Voilà, moi je veux dire électré parce que c'est juste plus facile à dire. Et donc du coup, électré, électronisme, d'accord, mais ça veut dire quoi exactement ?
Alors, c'est la difficulté, voire l'incapacité que rencontre une personne à utiliser les appareils numériques ou les outils informatiques en raison d'un manque ou d'une absence totale de connaissances à propos de leur fonctionnement. Je cite Wikipédia, hein. Merci.
Alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la tribune, c'est qu'il met aussi en avant le fait que plein de gens utilisent de l'informatique sans comprendre ce qui se passe, sans comprendre ce qu'ils font. Et donc, ce n'est pas que les gens qui ne savent pas s'en servir et qui galèrent. C'est aussi les gens qui l'utilisent au quotidien sous des formes et qu'il appelle terminal, hein, donc les gens qui utilisent juste des terminaux mais qui ne savent pas tout ce qui se passe derrière et qui sont en quelque sorte conditionnés par les conditions d'emploi de l'informatique qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Donc il a en tête les téléphones portables, les consoles de jeux, et c'est effectivement des choses que j'ai vues moi avec des gamins de 10-12 ans de maintenant qui passent leur temps sur les téléphones et les consoles mais qui ne savent pas faire enregistrer sous sur un ordinateur, par exemple.
Alors moi, je contredirais en disant que parfois, il n'y a pas d'enregistrer sous. Si tu es sur une console, effectivement, enregistrer sous, ça n'a pas de sens. Et l'informatique a évolué, et on peut éviter de se préoccuper de ce que c'est qu'un fichier, par exemple. Alors moi, je fais un parallèle que j'aime bien mettre en avant entre l'électronisme et l'illettrisme, qui est lié au papier. Et à l'origine du papier, de l'écriture et de la lecture, bah, peu de gens savaient se débrouiller. C'était compliqué à l'époque, le papier lui-même était une chose compliquée, et lire, c'était un déchiffrement fastidieux. Et l'informatique d'aujourd'hui, bah, y a des fois où on est vraiment dans des galères. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de lire des hiéroglyphes. Hein. Donc ça reste compliqué, mais on est dans une évolution. Et les fichiers que toi, tu connais, que plein de gens maîtrisent, c'est peut-être quelque chose qui ne devrait pas être nécessaire à la maîtrise de l'informatique. Peut-être que de la même manière qu'il y a des espaces entre les mots, il n'y aura plus besoin des fichiers à un moment donné.
En défendant ce point de vue, Manu, je pense que tu es contre l'opinion de Stéphane Crozat. Et moi, tel que je comprends son texte, c'est vraiment cette idée que cette vieille adage qu'on a dans l'informatique libre, hein, qui est maîtriser son informatique ou être maîtrisé par elle. Aujourd'hui, il y a plein de comportements, si on s'intéresse qu'au pognon, au comportement des gens, que les gens vont adopter parce qu'ils ont la conviction que c'est ce qu'il y a de mieux. Si tu prends par exemple... Dans le domaine de la consommation culturelle, les gens sont satisfaits d'avoir toute la musique sur des services hébergés et de payer pour avoir le droit d'accéder à de la musique, alors que les vieux comme nous, on était propriétaires de notre musique, de nos enregistrements.
Du support de la musique, oui.
Oui, oui. Voilà, moi, dans mon téléphone, j'ai quelques gigas de musique. Je ne suis pas dépendant d'un fournisseur d'accès qui va choisir ou non de me donner accès, qui va choisir ou non de me dire « écoute ça plutôt que telle autre chose », qui va m'envoyer de la pub dans un sens ou dans un autre. Je peux écouter la musique que j'ai envie d'écouter, je peux aller explorer ce que j'ai envie d'explorer. Dans le domaine de la vidéo, par exemple, on a aujourd'hui une pléthore de plateformes d'abonnement. Et si on veut regarder ce qu'on a envie de voir, eh ben, il faudrait prendre un abonnement sur chaque plateforme et donc dépenser une fortune. Et donc, pour moi, c'est des exemples concrets de ce que c'est que aujourd'hui cette non-maîtrise de l'informatique. Et c'est d'être également dépendant de ces réseaux-là et que nos propres comportements soient conditionnés par des services marketing qui ont décidé combien d'argent on allait dépenser par mois et qu'on allait être captif de leur réseau et de leur système. Typiquement dans ce domaine de la culture, pour moi, aujourd'hui, le public, particulièrement dans la vidéo à la demande, est vraiment perdant parce que la qualité, la liberté de choix, elle est très limitée.
Oui, mais alors moi, j'aurais pas été dans cette direction-là en parlant d'électronisme. Alors toi, tu penses effectivement que les gens sont maîtrisés par leur informatique, mais moi, je pense que les gens ont même un rejet ou des incapacités à utiliser l'outil informatique, et je peux le comprendre, bah, notamment parce qu'il y a des barrières générationnelles, des gens qui ne sont pas nés du tout dans ces environnements-là, enfin qui n'ont jamais eu ce besoin ou cette envie de se mettre à ces outils.
Il ne faut pas oublier que maintenant, pour tout ce qui est démarche sur le service public, les impôts, la CAF, la retraite, ça devient totalement obligatoire d'avoir un ordinateur, de savoir l'utiliser et de savoir remplir tous ces documents qui sont devenus totalement obligatoires. On a le témoignage d'une femme sur un des articles qui dit « Si je me trompe et que je ne suis pas en règle, je peux avoir un an de galère. » Ou alors un jeune homme qui se fait désinscrire de Pôle emploi parce qu'il n'a pas rempli correctement certaines cases. Et tous ces gens-là, on part du principe qu'ils ont un ordinateur. Donc, quid de ceux qui n'ont même pas d'ordinateur ? Pour moi, l'électronisme, c'est vraiment cette exclusion de ces personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique.
Alors, pour le coup, on est tombé sur des publicités et où il y a le gouvernement qui essaye de mettre en avant, Magali réagit. C'est France Service, je crois, où il montre, voilà, bah, pour remplir ses impôts, il faut demander de l'aide si on ne sait pas faire ou si on n'a pas les outils informatiques. Alors, je ne sais plus s'il n'y a pas des organismes qui peuvent aider. On débarque et on dit, voilà, j'ai besoin de remplir mes impôts. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que c'est qu'un clavier. Je ne sais pas comment ça marche. Ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai besoin de remplir mes impôts. Donc, il y a des pubs hein, qui mettent ça en avant parce que bah, c'est vrai que c'est utile pour les administrations de tout informatiser. Hein. Clairement, de ce côté-là, ça, c'est pratique. Mais pour les administrés, c'est une obligation qui n'est pas toujours simple.
Il y a donc dans l'actualité un autre sujet qui est lié à ça. Il y a un sénateur qui s'appelle Ouzoulias, le sénateur Ouzoulias, qui a proposé un amendement qui a été rejeté malheureusement, mais justement au cours d'une discussion relative à la lutte contre l'électronisme et pour l'inclusion numérique, il a déposé un amendement pour l'organisation de formations continues en matière de numérique de tous les enseignants, leurs connaissances en logiciel libre, format ouvert et ressources éducatives gratuites. Donc ça a été refusé, ce qui est bien malheureux. Et derrière, bon, il y a des discussions pour savoir pourquoi dans l'éducation il y a plein de logiciels propriétaires encore. On est, je pense, tous d'accord pour dire que le logiciel libre et l'éducation devraient aller de pair, ne serait-ce que parce que ça coûterait moins cher à l'État, mais ça permettrait également à n'importe quel élève de s'équiper en logiciel sans avoir besoin de choisir un éditeur propriétaire, sans avoir besoin de passer à la caisse, etc.
Alors, moi, je rebondirais, je te dirais que les ministères, les enseignants sont encouragés pour aller utiliser Frama et les chatons. Donc oui, ça va dans le bon sens, c'est juste que ouais. Les chatons, bah, ils sont pas du tout assez costauds.
Les chatons, ils sont pas là pour remplacer l'éducation nationale. Je suis pas sûr que l'éducation nationale recommande aux enseignants d'aller sur Framasoft.
Si, si, il y a eu des recommandations.
Ils l'ont fait au premier confinement.
Oui, bah, ils étaient en mode panique. Mais bon, voilà, il faut bien se dire que l'éducation nationale, c'est des millions d'utilisateurs.
Qui allument tous en même temps, le matin, à la même heure.
Et d'un point de vue technique, c'est extrêmement exigeant. Souvent, on prend l'éducation nationale un peu à la légère en disant que c'est des rigolos. Les contraintes techniques sont énormes. Alors, il y a une chose aussi par rapport à cette question des gens qui n'y arrivent pas, dont tu parlais tout à l'heure, où on peut également faire un parallèle avec l'illettrisme. C'est qu'aujourd'hui, en France, on a 7% de la population qui est illettrée. Donc, c'est un petit peu baissé depuis 10 dernières années. Mais 7%, ça reste encore très important. On aura toujours une frange de gens qui ne savent pas faire.
Une personne sur 6 n'utilise pas Internet. Donc ça fait quand même oui. Une bonne portion de la population bah, qui va avoir du mal à remplir ses impôts, hein, par exemple.
Par rapport à cette question de l'éducation, le fait que les profs soient mieux formés, c'est sans doute une nécessité. Je pense que beaucoup, beaucoup d'enseignants galèrent. Moi, j'ai eu des retours d'enseignants qui m'ont dit qu'ils avaient le sentiment qu'on leur balançait des outils en vrac et que ça marchait à moitié, qu'on ne les formait pas et qu'ils devaient se démerder avec ça. Aujourd'hui, quel que soit le milieu dans lequel on bosse, on est confronté à l'informatique partout. Dans les restaurants, maintenant, c'est des outils informatiques pour prendre les commandes. Dans les supermarchés, c'est des outils d'informatique de plus en plus avancés. Aujourd'hui, l'informatique se répand partout. Et donc, cette question de l'électronisme, elle est d'autant plus importante parce qu'il faut être capable de faire face à ces nouveaux outils, mais il faut être également capable de les comprendre pour ne pas se faire promener, pour ne pas se faire happer par ce système de surveillance, puisque ça sert à ça aussi. Et si on veut rester citoyen et avoir de la maîtrise sur nos vies, il faut qu'on soit capable de comprendre ce qui se passe, comment ça marche, qu'est-ce que ça peut faire, pas faire. Est-ce qu'on est réellement obligé de marcher dans les clous ? Parce qu'on a vite fait de vous dire que techniquement, c'est obligatoire. Et que si on veut voilà, rester politiquement maître de nos destins, il faut plus de connaissances dans ce domaine-là.
Bon, bah, ça fait une belle conclusion. Moi, je saupoudrerai avec l'informatique, c'est quand même pas mal parce que ça donne une puissance et des capacités décuplées. Donc c'est un effet de levier incroyable. Il faut saupoudrer en plus avec du logiciel libre parce que effectivement ça nous libère. Et puis ça reste un sujet vaste et global.
Il ne faut pas hésiter à être acteur de son informatique et à participer au chaton.
Sur ce, je te dis à la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine. Salut tout le monde.
Salut.